Alors, je vais vous dire, l'histoire du Parlement de Bordeaux, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire d'une part, tous ceux qui s'intéressent à Bordeaux d'autre part, et par ailleurs à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Aquitaine et de la France au-delà, c'est quelque chose de passionnant pendant 3 siècles et demi. Dans ce livre aussi, quelque part, une histoire de l'Aquitaine. Alors, c'est un livre qui doit se signaler, au-delà de son aspect extérieur, par... C'est un livre commémoratif, c'est une parenthèse que je fais. Vous l'avez bien compris, c'est un beau livre. C'est un tirage limité, il y a 500 exemplaires, et ils sont numérotés. Donc, c'est un tirage collector, si je puis dire. Bon, ça n'est pas un livre qui est fait pour être vendu pendant 50 ans. C'est un grand moment, ce qui explique d'ailleurs son aspect. Il est bien évident que nous avons voulu aussi prendre acte du fantastique renouveau qu'avait connu, et là, bien entendu, mes amis universitaires me reprendront peut-être, l'histoire des parlements et l'histoire du Parlement de Bordeaux en particulier, depuis, on va dire, une vingtaine ou une trentaine d'années. Si on croit les statistiques de Gisela Nagel, cela fait 20 ans. Elle parle des années 90. Moi, je remonterai un peu plus en arrière. Et toutes les disciplines se sont mises à s'intéresser à ce Parlement de Bordeaux qui a passionné des générations. C'est pourquoi vous avez un sous-titre sur le livre, un sous-titre amphibologique. Parce qu'il est écrit « 550 années d'histoire du Parlement et du barreau de Bordeaux ». L'histoire du Parlement, malheureusement, elle s'est arrêtée en 1790. Et le Parlement de Bordeaux n'a eu que 328 années d'histoire. Mais malheureusement ou heureusement, le regard des historiens a continué à scruter, à fouiller, à labourer l'histoire de ce Parlement de plus en plus. Et ce qui fait que l'histoire directe et l'histoire dans le regard des historiens a bien duré 550 années pour le Parlement, et que le barreau étant déjuré, né en même temps que le Parlement, il a, lui, effectivement, 550 années d'histoire. Alors, nous avons convoqué, effectivement, toutes les disciplines. Peut-être, dira-t-on, il manquerait un sociologue, etc. C'est possible, en tout cas, pour essayer de regarder ce Parlement sous ses facettes les plus diverses et, je dirais, les plus séduisantes. C'est pourquoi vous allez entendre ce soir, parmi certains auteurs, puisqu'il y a 15 auteurs, M. Frédéric Boutoul, qui est, lui, je dirais, il réfutera, qui a été l'archéologue de l'étude de ce Parlement, puisque il est revenu en arrière, avant le Parlement de Bordeaux, pour essayer de savoir ce qu'il y avait dans ces strates successives de ces constructions qui, finalement, devaient abriter de façon continue pendant plus de 3 siècles, sans d'ailleurs beaucoup de modifications véritables, le Parlement. Et puis, nous avons aussi, évidemment, invité beaucoup de personnes qui ne seront pas là, les spécialistes, je dirais, du siècle, Madame Caroline Lemao, qui malheureusement fait passer des épreuves à Paris aujourd'hui, Monsieur Laurent Coste, qui est spécialiste du barreau, Hervé Levers, qui a écrit sur la création du barreau et qui est professeur à l'université de Lille, Monsieur William Doyle, qui a été à mes yeux un pionnier parce que lorsqu'il a publié en 1974 l'histoire de la fin du Parlement de Bordeaux, avec les méthodes historiques des anglo-saxons, très particulières et très fouillées, où aucune source n'est ignorée, n'est laissée dans l'ombre, fût-ce pour la critiquer. Je pense qu'il a contribué à un renouveau. Et puis nous avons aussi alors là tous les travaux de Madame Cocula, qui est avec nous fort heureusement ce soir, qui elle a été une inlassable militante de l'histoire du Parlement, qu'elle n'a pas réduit d'ailleurs à Montaigne, comme elle l'a fait dans le livre, et surtout à la Boétie, qui est un phare éminent de ce Parlement, et qui a publié des chroniques scientifiques, dans toutes les revues qualifiées sur cette histoire du Parlement de façon continue. Et enfin, M. Serventon, qui, lui, s'est plutôt spécialisé, mais là encore, je suis réducteur, et qui est avec nous ce soir, dans l'histoire des avocats au XVIIe siècle, ce qui est très particulier. Alors, quel est le Parlement qui peut se vanter d'avoir produit, c'est-à-dire d'avoir donné, issu de ses rangs, La Boétie, Montaigne, Montesquieu et même, à un degré moindre, Dupaty. Lequel ? Alors, quand vous dites ça, il y a peut-être des gens de Toulouse, je ne veux pas du tout les vexer ni entrer en concurrence, vous dites ça. Nous, on a eu Cujas. C'est vrai qu'entre Cujas et Montesquieu, personnellement, moi, je me refuse à comparer, parce que je ne sais pas. Bon, donc, c'est donc... il ne faut pas croire qu'ils sont arrivés déjà chargés de voir qu'ils ont apporté au Parlement de Bordeaux, car c'est après ressorti qu'ils ont conquis la gloire que l'on connaît. Alors ça, évidemment, vous allez me dire, si on prend par les illustres, comme on dit, ça n'est pas une solution, mais nous avons aussi abordé la question de la vie de ces parlementaires, et je termine par là parce que je ne vais pas être trop long, mais je sais qu'on ne parlera pas trop du XVIIIe siècle, de cette décadence un peu, mais qui est en même temps la décadence dans les mœurs juridiques, l'explosion de la vénalité et de ses dérives, mais aussi c'est le cadre architectural de Bordeaux qui se crée au XVIIIe siècle. Quand on pense que dans les 30 dernières années du Parlement de Bordeaux ont été construits par et pour des parlementaires, je vais prendre trois exemples, l'hôtel de Sèges, l'hôtel de Poissac et l'hôtel de Lalande, c'est-à-dire trois des plus beaux hôtels du XVIIIe siècle devant lesquels les gens passent sans savoir que ce sont des parlementaires qui les ont fait construire. Alors évidemment, l'envers du décor, c'est que pour l'hôtel de Lalande et l'hôtel de Sèges, ça a été en partie construit avec des fortunes qui venaient de l'argent de la traite, ce qui, évidemment, est une ombre qui n'est pas cachée d'ailleurs dans le livre, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et il y a également toutes les constructions du XVIIe siècle, notamment illustrées rue du Mirail par deux hôtels, ou encore rue du Loup par l'hôtel de Raguenau qui a occupé le premier président du Parlement pendant un temps et qui a fait graver ses initiales. Au-delà, vous avez toute l'histoire de la justice pendant 350 ans, ça a duré 328-30, et également vous avez une histoire de la ville de Bordeaux, car le Parlement était avec la jurade, l'acteur, des décisions, parfois d'ailleurs en antagonisme viscéral, de tout ce qui s'est passé à Bordeaux, ce qui fait que tous les grands historiens de Bordeaux, que ce soit Don de Vienne ou les autres, n'ont jamais pu écrire leurs longues histoires sans finalement faire des centaines de pages sur l'histoire du Parlement de Bordeaux. Bon, allez, j'ai trop parlé, je pourrais parler longtemps. Donc, eh bien, avant le Parlement, il y a eu un Parlement. Parce que ce Parlement, bien sûr, on lui a affecté un lieu d'audience qui était le palais des ducs d'Aquitaine. Mais avant le palais des ducs d'Aquitaine, il y a eu des constructions. Et là, il faut remonter, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, au Moyen-Âge. Et donc, l'Ombrière, avant l'Ombrière, c'est quelque chose de très important pour tous ceux qui se promènent sur la place du Palais. Donc je donne la parole maintenant à M. Frédéric Boutoul, qui est le grand spécialiste.
Bien, merci beaucoup. L'idée, effectivement, c'était de rendre justice, si je puis dire, donc à ce bâtiment, mais précisément donc à tout ce qui s'est passé avant, parce que le Parlement, effectivement, donc, est né il y a 550 ans, mais on pouvait également donc célébrer notre anniversaire. On aurait pu attendre quelques petites décennies pour célébrer le millième anniversaire des premiers fondements donc de ce qu'allait devenir le Parlement. Parce qu'avant le Parlement, il y avait ce château des Ducs d'Aquitaine, château de l'Ombrière, qui a été un cœur politique, financier, judiciaire du Bordeaux, mais aussi donc de l'ensemble de l'Aquitaine, Aquitaine anglo-gascone, comme vous le savez certainement déjà. Donc je vais parler rapidement de cet avant le Parlement, de ce château ducal, parce qu'en réalité, donc, c'est dans ce cadre-là, à la fois architectural et institutionnel, que s'est installé ce Parlement et qu'a pu développer, et qu'a pu, les parlementaires ont pu vivre dans un cadre de vie qui était largement donc, hérité des siècles du XIIe, XIIIe, XIVe et XVe siècle pour l'essentiel. Donc le Moyen-Âge dans sa partie finissante. C'est un sujet, quand la proposition m'en a été faite, qui me convenait assez bien, parce qu'effectivement, on pouvait là aussi mettre en pleine lumière un certain nombre de renouvellements historiographiques de ces dernières années. Puisque pendant assez longtemps, pendant presque un siècle, on est resté tributaire sur l'histoire de ce château ducal, eh bien de tous les acquis de Léo Drouin, bon, qui s'était intéressé, comme il s'était intéressé aussi à beaucoup d'autres aspects du Bordeaux médiéval et de l'Aquitaine médiévale. Et en réalité, Léo Drouin, on doit à Léo Drouin eh bien, de célèbres dessins qu'il a fait à partir de plans, mais Léo Drouin n'a pas eu accès aux archives qui ont été émises dans le château ducal, tout simplement parce que c'était des archives qui étaient conservés, qui ont été expédiés à Londres pour l'essentiel, ou alors qui ont été perdus à l'occasion de l'incendie de la Chambre des comptes de Paris. Donc, faute d'archives, eh bien, Léo Drouin s'en est tiré, fort bien tiré, avec une description architecturale, et déjà, première conclusion de caractère archéologique, et il a fallu attendre, en fait, que Jacques Gardel, on est en 1972, dans sa belle thèse donc, sur les châteaux de l'Aquitaine anglaise, ait accès pour la première fois, de tous ceux qui sont intéressés à ces questions, aux archives de la chancellerie anglaise, qui sont des grandes séries assez célèbres qu'on appelle les rôles gascons, mais qui sont aussi des séries un peu moins connues, qui aujourd'hui donc font l'objet d'un travail d'édition, parce que ces archives à l'époque, en 1972, n'étaient pas encore publiées dans leur totalité, elles le sont encore petit à petit, et année après année, on continue à découvrir des textes, j'en ai trouvé quelques-uns sur ce château. Et deuxième série extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle les comptes des connétables, puisque chaque connétable, donc l'officier ducal qui résidait dans ce château ducal, chaque connétable, donc en fin de charge, faisait un compte rendu, pour parler rapidement, de son activité, qui était laissé donc à Londres. On a retrouvé quelques-uns de ces comptes de connétables, pas tous, mais quelques-uns qui ont été publiés pour le XIVe et surtout et le début du XVe siècle, et qui, à notre grande surprise, livrent encore des informations inédites sur ce qu'était ce château ducal. Alors malheureusement, on n'a pas de procès-verbal d'inspection, de description, comme il a pu en exister à l'époque moderne, à l'issue de deux incendies qui ont affecté le château. Néanmoins, le Parlement, pour le coup, néanmoins, donc, par un certain nombre de recoupements, on arrive à avoir des informations, et le grand avantage des renouvellements de ces dernières années, c'est l'apport de disciplines complémentaires qui sont aujourd'hui absolument majeures dans l'approche historique de ce bâtiment, c'est l'archéologie et l'analyse parcellaire. Alors l'archéologie, il y a eu une opération archéologique le long sur la place du palais ainsi que le long d'une rue adjacente qui a permis non pas de voir quel était le palais, le château ducal, mais quel était en fait son environnement. Et avec cet environnement, on arrive déjà à voir beaucoup de choses. Cet environnement d'époque gallo-romaine, mais aussi Moyen-Âge, donc 13e, 14e et 15e siècle. Et puis l'analyse parcellaire, c'est le travail qu'a mené notre collègue Ézéchiel Jean Couret dans sa thèse sur la géomorphogénèse donc, du Bordeaux médiéval, et où lui il fait parler les plans, les cadastres, et il repère donc à travers un certain nombre de caractéristiques, que sont les alignements parcellaires, que sont les tracés de voies, et bien la trace évanescente de bâtiments qui ont disparu et qui ont laissé donc leur empreinte dans le parcellaire. Et donc le croisement de toutes ces données, et certaines étant donc de ces toutes dernières années, 2005 pour le sondage archéologique dont je 2001 pardon pour le sondage archéologique dont je parlais, 2005 pour les travaux d'Ézéchiel Jean Couret, ont fait que, voilà, on a maintenant un regard absolument renouvelé sur le passé de ce Parlement. Alors, rapidement, pour vous faire une synthèse de tout ce qui a été, de tout ce que j'ai pu écrire, en fait, on voit les choses en plusieurs temps. On voit donc le temps de la fondation de ce château ducal, qui à la base donc est en fait une tour. On est dans les années 1070, c'est le duc d'Aquitaine, Guy Geoffroy, à l'époque, et en fait, il y a une opération qui marque le début de la construction de cette tour, une opération qui est documentée par une donation en faveur d'une abbaye, une abbaye gasconne, Saint-Sevé, Cap de Gascogne, et il se trouve que le duc d'Aquitaine de l'époque cède à l'abbaye de Saint-Sevé, Cap de Gascogne, on est en mai 1070, un palais situé à Bordeaux, qu'il appelle le palais de la Salle, avec donc quelques-unes de ses composantes, parmi lesquelles il cite donc une chambre, un portique, une cuisine, etc. Le terme de palais est extrêmement intéressant, puisque on sait que c'est dans ces complexes palatiaux que séjournent les ducs, les rois, lorsqu'ils s'arrêtent dans les cités, mais c'est aussi dans ces complexes palatiaux que s'exercent les prérogatives publiques, l'exercice de la justice, la frappe de la monnaie, pour ne parler que des plus importantes. Or, Ézéchiel Jeancouret, dans son travail en 2005, a réussi à localiser, un peu beaucoup plus précisément que je ne l'avais fait moi précédemment, ce palais de la Salle en plein cœur de Saint-Projet, où là il a repéré non seulement donc l'emplacement probable de ce palais, mais le fait qu'il était ce palais dans une espèce d'enceinte dont la datation est difficile à préciser, mais qui semble être post-carolingienne, comme on le dit, donc 9e, 10e siècle apparemment, et donc qui fonctionne tout autour de la place Saint-Projet. Donc ce qui se passe en 1070, c'est que le duc d'Aquitaine abandonne le palais traditionnel de la Salle, dans lequel il séjournait, dans lequel la justice était rendue à son nom, pour s'installer sur cette nouvelle tour, qui est maintenant bien connue, bien localisée. Jacques Gardel l'a reconnue, l'a étudiée, l'a datée. C'est une tour comme on en fait à l'époque romane, comparable à celle de Loches, Langeais, une belle tour quadrangulaire, avec des murs épais de 2,60 m, de 17 mètres sur 14, avec donc plusieurs étages, sans voûte. Et cette tour, donc, en fait, a donné lieu à un château, mais en fait, le terme n'apparaît pas au départ, parce qu'on parle de domus, de maison encore au milieu du XIIe siècle. Et puis, on a l'impression que les choses tardent, en fait, à se mettre en place. Ce qui intéresse le duc, en fait, c'est pas tant d'y résider, parce que la fonction résidentielle n'est pas si évidente que ça pour un pouvoir en perpétuel déplacement. Non, en fait, ce qui l'intéresse, c'est la levée des coutumes sur le vin, puisqu'on est là à vue des appontements sur la Garonne et surtout sur le Peugue, où se percevaient les coutumes, c'est-à-dire en fait des taxes, notamment sur le vin. Donc il y a ici la volonté de se rapprocher d'un pôle de perception de la coutume, il y a la volonté d'apparaître par les marchands qui circulent sur la Dordogne, alors que la fonction défensive, qui était beaucoup plus claire, beaucoup plus évidente au cœur de la ville, dans le cadre de l'enceinte de Saint-Projet, cette fonction défensive, elle, paraît être mise en retrait, n'est pas, semble-t-il, celle qui prédomine lors du choix du site. Pourquoi ? Parce qu'on est tout simplement à l'extérieur de l'enceinte de la cité gallo-romaine, à l'extérieur donc de cette enceinte qui existait encore en très bon état au XIe siècle, et donc on est en avant sur une plateforme portuaire qui a été reconnue justement par le sondage archéologique. Donc ça, c'est un acte de naissance, mais vous voyez que la naissance, en fait, elle tarde à aboutir à un projet architectural tel qu'on l'appelle au Moyen-Âge un château avec sa tour maîtresse, ses dépendances et puis son enceinte. Ce retard, en fait, c'est pas tant un retard à l'allumage qu'un retard à la concrétisation, parce que finalement, en plein XIIIe siècle, lorsqu'on trouve d'autres textes, toujours encore extraits des séries de la chancellerie anglaise, 1222, 1232, un petit peu plus tard encore, en 1242, où rend-on la justice publique à Bordeaux ? Eh bien, encore à Saint-Projet. Et où frappe-t-on la monnaie, donc l'atelier ducal encore à cette époque ? C'est toujours à Saint-Projet. C'est la rue de la Monnaie, qui est en fait pas très loin d'ici, adjacente à la rue Sainte-Catherine. Donc jusqu'à cette époque, en fait, on frappe monnaie et on rend justice sur le site de l'ancien palais ducal. Donc il y a eu pour le coup une disjonction qui est extrêmement intéressante, disjonction des fonctions qui sont associées à un complexe palatial, une fonction résidentielle que l'on soupçonne être partie vers l'ombrière, alors que la fonction judiciaire et la fonction monétaire sont restées sur le premier site, c'est-à-dire le site du palais de la Salle. Par contre, en 1262, on a un beau texte qui est en fait une enquête sur ce qu'on appelle dans la région les padouins, les terres publiques, et surtout, on a un autre texte en 1274 où l'on peut trouver des informations sur ce qu'il y a à Saint-Projet. Eh bien, à cette époque, à Saint-Projet, nul atelier monétaire, pas non plus donc de lieu coutumier où rendre la justice, et là, de toute évidence, les choses ont été transférées dans ce petit fragment de temps qui est le milieu du XIIIe siècle, pour parler rapidement, en fait, ça se passe en 1254-1255. Donc, il y a, vous le voyez, un décalage sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, voilà, ça c'est déjà en soi un premier élément, et les textes du milieu du XIIIe siècle, enfin, commencent à donner des informations intéressantes sur cet environnement architectural autour de cette vieille tour, parce que la tour donc romane 1070, eh bien, elle commence par être dépassée, on a besoin d'espace et de nouveaux bâtiments, et ces bâtiments, donc, on les voit apparaître dans les textes de la chancellerie anglaise. On voit par exemple, on est en 1232, si je me souviens bien, eh bien, le roi d'Angleterre qui demande à un charpentier qui vient de Saint-Émilion, qui a perdu un pied à l'occasion, on ne sait pas trop, mais d'une opération militaire probablement, sous ses ordres, eh bien, il reçoit l'ordre, ce charpentier, de bâtir le châtelet d'entrée de ce château. On a d'autres informations, un tout petit peu plus tard, sur la construction d'une aula, donc en fait d'un lieu de justice, où l'on rend la justice, donc une grande salle. Cette grande salle, en fait, on l'a retrouvée, elle existe encore au XVIIIe siècle, puisque c'est elle que l'on voit le mieux sur les plans de cette époque, a bien analysé Léo Drouin ainsi que Jacques Gardel. Donc pour aller vite sur les siècles qui suivent, les informations qui apparaissent ensuite ne bouleversent pas vraiment nos connaissances, ou en tout cas telles que les avait déjà calées Jacques Gardel. Il avait parfaitement bien repéré un certain nombre de grandes étapes du chantier, notamment au début du XIVe siècle, la construction de ce qu'on appelle à l'époque donc la Tour du Roi, qui est un très très bel exemple de tour pentagonale, elle aussi assez massive. Par contre, ce que l'on vient de repérer, grâce donc au compte des connétables, c'est du mobilier. On est très surpris qu'à l'extrême fin du XIVe siècle, il y ait si peu d'armement dans ce château ducal. Alors c'est vrai que le connétable, il a principalement des fonctions fiscales. C'est lui effectivement, enfin fiscal, domanial, c'est lui qui verse les pensions, c'est en son nom que l'on afferme ce qu'on appelle les prévôtés, les baillis, il perçoit des revenus du coup, mais il y a un certain nombre, il y a une petite garnison dans ce château, en tout cas il y a des armes, et il y a à un moment donné, bon effectivement, c'est un château, une fonction défensive. Or, quand on voit les comptes des connétables, c'est très peu de choses, très très peu de choses. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de voir dans ces comptes de connétables des archives, puisqu'ils évoquent successivement un certain nombre de livres qui sont numérotés, le livre A, le livre B, le livre C, le livre D, ainsi qu'un certain nombre de cahiers. Or, une grande partie de ces archives, je disais tout à l'heure, donc ont disparu à l'issue de l'incendie de la Chambre des Comptes de Paris, c'est en 1737, si je me souviens bien, et deux de ces registres donc ont été conservés par je ne sais pas quel hasard, et conservé et édité depuis, le livre A et le livre B. Mais en revanche, donc, le reste a disparu, et là, bon, on ne peut que regretter, pleurer à chaudes larmes, devant donc cette potentialité de travaux et de meilleures connaissances de l'Aquitaine de cette époque. Donc pour conclure, vous voyez, je vais essayer d'être très rapide, donc on a un bâtiment qui tarde à part en consistance, qui tarde à recevoir toutes les fonctions associées normalement donc à un palais. Et pendant fort longtemps, on s'est posé la question, pourquoi un tel retard? Pourquoi un tel décalage? Eh bien, je l'ai écrit dans l'article, il me semble que c'est aussi en raison des résistances, des réticences d'un acteur de poids, dont on ne mesure pas suffisamment encore l'importance dans les jeux de pouvoir des sociétés de cette époque. C'est tout simplement la bourgeoisie bordelaise et les communautés d'habitants. Parce qu'à lire les chartes de franchise, les chartes de coutume de cette époque, on se rend bien compte que les habitants sont extrêmement attachés à la pérennité des lieux coutumiers de justice et qu'ils n'entendent pas être aller en n'importe quel endroit que le duc souhaite rendre compte de faits qui leur sont imputables. Donc la pérennité des lieux de justice, et en fait là, en l'espace, il y a à peine 500 mètres à vol d'oiseau, et encore, je n'ai pas mesuré, mais on ne doit pas être à cette distance-là. C'est sur le principe que les gens, donc, de toute évidence, se sont arc-boutés et ont obtenu finalement satisfaction pendant presque deux siècles. Voilà. Les verrous sautent à un moment qui est un moment charnière, on est au milieu du XIIIe siècle, c'est un grand basculement, c'est une crise politique majeure, c'est la révolte des Gascons contre le lieutenant du roi de Simon de Montfort, et comme souvent, ces crises-là sont révélateurs de structures sous-jacentes, mais néanmoins, cette résistance est intéressante donc sur la capacité des communautés d'habitants à s'opposer à un transfert des lieux de justice aux coutumiers.
Bien, merci beaucoup. Alors, pour qu'on soit bien d'accord, le palais de la place, il était entre la place Saint-Projet et puis la rue Guiraud, à peu près. L'immeuble sud-ouest, là.
Oui, c'est exactement ça. Voilà, c'est l'îlot sud-ouest.
Voilà. Donc, il y a toujours une résistance des gens de justice. Aujourd'hui encore, on ne peut pas transférer un palais de justice comme ça. Et on arrive donc au 12 novembre 1462, où après un faux départ en 1453, se tient la première audience de ce Parlement de Bordeaux, juridiction souveraine, ce qui est très important. Je crois que c'est Camille Julien qui dit que la chose à laquelle les Bordelais tenaient le plus, c'était une cour souveraine. Ça veut dire qu'on ne dépend plus de Paris, que tout se règle à Bordeaux. Et il est vrai que pendant 330 ans, eh bien, il y a eu une cour souveraine à Bordeaux et qu'après, eh bien, c'est la soumission, au moins en matière judiciaire et peut-être en d'autres termes. Alors, à la suite de cela, il y avait 7 membres du Parlement pour l'inauguration. C'était les seules charges qui existaient. Et puis, pour aller vite, il y a eu les guerres d'Italie. Il y a eu la nécessité de pourvoir les caisses du royaume, et le roi, qui s'est bien rendu compte que ces gens, il les nommait, ces gens c'était les hommes du roi, Jean de Tudère, le premier président, qui était un Poitevin, c'était un homme du roi, le troisième c'était pire, il s'appelait Louis Tando, c'était l'âme damnée de Louis XI, il avait avec lui, raconte certains chroniqueurs, vrai ou pas vrai, participé à la destruction de documents visant à spolier la famille de la Trémoille de notaire qui était à Talmont, donc tout près d'ici, et en terre, certes poitevine, mais bientôt aquitaine. Et donc, la vénalité des offices s'installe, et en 1453, je crois, il y a un jeune brillant, lauréat de la faculté de droit d'Orléans, natif de Sarlat, qui va acheter la charge de monsieur de Lurlonga. Vous voyez la transition, hein ?
Je comprends.
Et qui va devenir conseiller au Parlement de Bordeaux, qui s'appelle Étienne de la Boétie. Bon. Et alors, Étienne de la Boétie, ça suppose ceux qui vont venir par la suite. C'est une grande période troublée, parce qu'on est dans la période qui a déjà été abordée. 1548, la nouvelle révolte des Bordelais, il n'y en avait pas eu depuis 1453 contre la monarchie, la fameuse révolte de la Gabelle. Et finalement, 20 ans ou 15 ans plus tard, le début de ce qu'on appelle les guerres de religion. Et alors, la grande spécialiste, je tiens à le dire, parce que certes, il y a ce livre qui est très beau, qu'il faut acheter vite. Je vous précise que nous n'avons pas de droit d'auteur, donc nous sommes totalement désintéressés, et que c'est une promotion que nous faisons véritablement dans l'intérêt intellectuel de l'ouvrage. Mais vous pouvez aussi vous reporter, bien entendu, à tous les ouvrages des auteurs particuliers du livre qui ont écrit, de M. Boutoul à Mme Cocula, en passant par M. Sermenton, des ouvrages plus ciblés, parfois plus précis, sur les questions qu'il aborde. Donc, nous avons le grand plaisir d'avoir Mme Cocula avec nous, et c'est la grande spécialiste à la fois de la Boétie, de Montaigne, de leur amitié, Et dans le livre, elle a fait ce clin d'œil que je trouve assez remarquable, plutôt que de revenir sur le traitement de ces questions qui ont été abordées par la Société des Amis de Montaigne, d'une part, et dans des tas de colloques, sur ce qui est la quintessence de l'amitié entre des hommes au XVIe siècle, et notamment sur cette amitié diverse, qui n'est pas une amitié à trois d'ailleurs, qui est peut-être plutôt deux amitiés, entre la Boétie et Montaigne et Pierre de Braque de l'autre côté. Voilà, c'était mon introduction.
Merci. Merci de m'avoir invité. Alors, ce que je voudrais dire, effectivement, c'est que en réfléchissant sur ces grands personnages du Parlement au XVIe siècle, je pense qu'on est dans la période, je dirais, la plus importante en termes de pouvoir du Parlement. Parce que si on regarde la chronologie, on est quand même frappé par le fait que ce Parlement, il vient un peu tard. Hein. Les Bordelais l'attendaient parce qu'il y avait celui de Paris, le grand Parlement au ressort gigantesque. Il y avait à côté le Parlement de Toulouse. Donc pour créer un parlement, un territoire, un ressort, comme on dit, du Parlement de Bordeaux, il fallait empiéter sur les deux autres. Ça ne s'est pas fait facilement. Et d'ailleurs, il y aura une espèce de guerre d'usure entre Bordeaux et Toulouse pour se rafler des petits territoires de ci, de là. Une création difficile. Une création politique ennuyeuse aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les Bordelais ont rappelé les Anglais, pour aller vite, en 1452, qu'ils n'ont pas accepté, je dirais, ils ont été infidèles à leur première édition, il faut dire les choses comme elles sont, même à Bordeaux. Donc ils sont infidèles à leur première édition, ils le paient très cher de la part des rois de France, de la part de Charles VII et de Louis XI, pour une fois d'accord, et en fait, ce qu'on leur avait promis, le Parlement tarde à venir. C'est un peu une punition, et vous savez, avant que cette tenue des parlements, il y avait ce qu'on appelait les grands jours. Et le premier Parlement de 7 membres dont on vous a parlé est issu justement des grands jours. Vous l'avez très bien dit, dans le premier conseiller du Parlement de Bordeaux, ils ne sont surtout pas bordelais. Les rois de France ne sont pas des idiots, et les rois de France savent que s'ils nomment des bordelais de Bordeaux, ou des environs de Bordeaux, automatiquement, ils ne pourront pas croire à leur entière fidélité. Donc, il faut des gens venus d'ailleurs. Il faut des gens d'abord instruits, ça n'a pas été dit, mais enfin, ce sont des gens instruits, des licenciés en droit, qui ont souvent fait leurs études dans d'autres universités, notamment Paris, mais bien évidemment aussi Orléans, qui est une grande université de droit, et c'est là que la Boétie d'ailleurs fera ses études. Donc, ce sont au départ des étrangers, entre guillemets, à Bordeaux, venus de régions qui ont été plus fidèles au cours de la longue guerre de Cent Ans, c'est-à-dire venus du Poitou, venus de la Saintonge et, pour rester en Aquitaine, dans l'Aquitaine actuelle, venus du Périgord, venus de la Dordogne. Parce que ces gens-là, finalement, ils ont été plutôt hostiles aux Anglais. Quand on regarde leur recrutement, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il appartient aux régions les plus anciennement hostiles au roi-duc. Donc, ces premiers conseillers vont avoir un rôle magnifique sur lequel je ne reviendrai pas, mais qu'il faut connaître, c'est-à-dire en quelque sorte la rédaction des coutumes. Essayer de trier, si j'ose dire, ou de faire le choix, je dirais, dans les coutumes, dans la typologie des coutumes, sur la façon, en quelque sorte, de légiférer et en même temps de légiférer par rapport à ce qui se passe à Paris. Donc, désormais, ce Parlement qui est à 7 en ses débuts et qui va être à peu près à 60 à la fin du XVIe siècle, 60-65, et qui sera divisé en chambres, ce Parlement, finalement, a sa voie toute tracée. Il a affaire œuvre de codification des coutumes, il a affaire aussi, on vous l'a bien dit, à transmettre en quelque sorte à la population de son ressort les édits, les ordonnances royaux, donc à les enregistrer et ensuite à les faire appliquer. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il n'est pas toujours facile et c'est souvent long de faire appliquer une loi avec des décrets d'application. Il faut vous dire qu'à cette période, c'était encore plus long. Donc, nous nous trouvons au milieu du XVe siècle et curieusement, la chronologie nous invite à regarder sur les siècles qui viennent après. 1462, cette création difficile. Un siècle après, presque exactement, 1548, la grande révolte de la Gabelle, qui va en quelque sorte déstabiliser le Parlement pour un certain temps, et qui va rappeler en quelque sorte à la monarchie, mais elle le savait déjà, qu'il lui faut particulièrement surveiller ses grands personnages, parce que ces grands personnages sont sans doute, de par leurs intérêts et leurs propriétés, leur seigneurie, des éléments moteurs de l'insurrection. C'est pas eux qui ont payé, je dirais, par les tortures et les supplices, mais quand même, on sait qu'ils ont joué un rôle dans cette grande révolte. Alors, cette révolte 1548 contre la gabelle, c'est-à-dire contre l'instauration de greniers à sel dans un pays producteur de gabelle, où on produisait la gabelle à proximité. Vous savez, le sel de cette époque, c'est le pétrole de notre époque, donc, non pas qu'on boive du pétrole, même si, mais c'est le sel nécessaire à l'alimentation, à la conservation des aliments pour les hommes, pour les animaux, etc. Donc un produit coûteux, un produit réglementé et un produit qui sert à la fiscalité royale, sous la forme en quelque sorte de ce prélèvement de la gabelle. Les Bordelais résistent en 1548, très fort. Cette révolte est sans doute venue du nord. Avant eux, en 1545, d'autres régions ont résisté. En 1545, et pas en 1548, pour une raison bien simple, Bordeaux ne se soulève pas en 1545, parce que la peste est dans la ville, et on ne connaît pas, à l'heure actuelle, de ville qui ait pu se soulever au moment où elles sont en quelque sorte contaminées par une très forte épidémie. Donc, 1548, et nous nous trouvons donc au mi-temps, si vous voulez, au milieu du XVIe siècle, à une époque où désormais le Parlement va être confronté, tous les parlements du royaume, vont être confrontés, 1540, première période, 1540-1560, à la réforme protestante, à la lutte contre l'hérésie, avec peu à peu, pour eux, je dirais, l'obligation de juger l'hérésie, puisqu'il n'y a pas d'inquisition dans le royaume de France, et que l'on va déporter les jugements des hérétiques, entre guillemets, des officialités religieuses, aux tribunaux des royaumes. Donc le Parlement, comme tous les autres, va se trouver au premier chef devant, je dirais, cette terrible, terrifiant enjeu de devoir juger finalement des hérétiques, de devoir les cerner, de devoir faire un travail qui va bien évidemment jusqu'à la torture, jusqu'au supplice. C'est l'époque de Montaigne, c'est l'époque de la Boétie. À l'heure actuelle, on a fait une comptabilité du nombre de morts sur le bûcher dans le royaume. On s'aperçoit qu'il y a des parlements qui ont été plus ou moins rigoureux, plus ou moins modérés. On peut classer le Parlement de Bordeaux parmi les parlements plutôt modérés. Par contre, par rapport à celui de Toulouse, qui sera beaucoup plus, je dirais, plus rigoureux. Et il y a là, bien évidemment, une évidence qui est liée à la présence dans cette région du sud-ouest de ce que l'on pourrait appeler des sujets ou des seigneurs surpuissants, c'est-à-dire la maison d'Albret. En fait, le Parlement va trouver en face de lui, à partir des années 1550, il va trouver en face de lui Jeanne d'Albret, convertie au protestantisme en 1560. Et à partir de ce moment-là, le Parlement va osciller en quelque sorte dans une politique à la fois très hostile aux protestants, mais traversée de moments en quelque sorte d'une relative modération. C'est là que l'on pourrait situer effectivement Montaigne. Pas la Boétie, puisque la Boétie meurt en 1563 et que lui est en quelque sorte simplement au démarrage de ses troubles religieux. Alors pour connaître les troubles religieux, on a des chroniques très abondantes, on a les registres des parlements, on est en quelque sorte, je dirais, devant, Frédéric le disait tout à l'heure, trop de documents quasiment, parce que tout historien est très rapidement, je dirais, inondé, envahi par cette documentation, par ces sources omniprésentes. Mais qu'est-ce qu'on mesure ? Eh bien, on mesure effectivement que ces parlements vont être traversés pendant toute la période des guerres de religion de courants que l'on pourrait appeler politiques. C'est-à-dire, en gros, il va y avoir parmi les membres du Parlement, il va y avoir des protestants, assez rares. Et certains, d'ailleurs, mourront juste après la Saint-Barthélemy, au moment de la saison des Saint-Barthélemy à Toulouse ou à Bordeaux. Il y a une partie d'ultra, on va dire, de catholiques zélés qui vont former, en quelque sorte, je dirais, l'embryon d'une ligue. Et Bordeaux se fait connaître parmi les parlements du royaume pour être un des premiers parlements où se forme ce syndicat ou cette ligue. Et on les connaît bien, on peut travailler là-dessus, on sait qu'elles sont à partir des années 1562-63, au moment où Bordeaux manque d'être prise, ceux qui se rangent dans cette catégorie. Et puis, il y a, non pas le marais comme au temps de la Révolution, mais il y a les parlementaires modérés, ceux qui se disent que finalement, les attributions des parlements, qui sont des attributions de justice, ont peu de choses à voir, à comprendre, si j'ose dire, dans les arcanes de la théologie ou des prises de position religieuses, et ceux qui voudraient en quelque sorte, à l'instar de Catherine de Médicis, à l'instar de Michel de l'Hôpital, instaurer non pas la tolérance, le terme est complètement anachronique, mais la concorde. C'est-à-dire essayer de faire vivre en paix les sujets du roi avant. Bon. Donc ça, c'est le premier défi du Parlement. Il l'a vécu douloureusement. Le second défi du Parlement à la fin du XVIe siècle, c'est un défi énorme. C'est en quelque sorte accepter que devienne roi de France un protestant. Je vous rappelle que Henri III est mortellement blessé en août 1589, qu'il est en train d'assiéger le Paris-Ligueur en 1588, qu'il fait ce siège en compagnie de Henri de Navarre, avec lequel il s'est récemment réconcilié, et que finalement, quand il meurt, mortellement blessé, je vous l'ai dit, Henri IV devient roi, mais dans des conditions très difficile. On a pu voir en quelque sorte qu'il y avait une forme de contrat qui est signé autour, entre les proches d'Henri III et les conseillers d'Henri IV, et qu'à partir de ce moment-là, les parlements vont être obligés en quelque sorte d'accepter, mais ça sera très compliqué. Il y a des parlements qui résistent contre, je dirais, la légitimité d'Henri IV, puisqu'on trouve que son oncle, on va choisir son oncle qui deviendra Charles X en quelque sorte, et qui vont ensuite, et c'est le troisième grand enjeu de cette période, refuser ou piétiner ou hésiter beaucoup sur l'édit de Nantes. Alors, Bordeaux, quand même sentimentalement attaché, je dirais, à l'Église, du fait de la présence de grands évêques pendant cette période-là, sentimentalement, en quelque sorte, ancré dans une position qui est quand même hostile à l'emprise de cette énorme maison princière qui est la maison d'Albret, très hostile à Jeanne d'Albret, très hostile à son fils, le Béarnais, c'est-à-dire Henri III de Navarre, futur Henri IV, va être obligé de se soumettre. Et il se soumettra en quelque sorte grâce à un personnage qui devrait tirer un biographe, parce que c'est un personnage étonnant, d'un chef d'État qui a joué un rôle capital à Bordeaux et hors de Bordeaux, c'est le maréchal de Matignon. Le maréchal de Matignon, qui est en quelque sorte le subalterne du gouverneur de la province et qui va rétablir l'ordre militaire et qui va en quelque sorte faire régner une forme de paix dans la province avec l'accord d'Henri III et l'accord ensuite d'Henri IV. Mais Henri IV ne sera pas gentil vis-à-vis des parlements. Et Henri IV viendra à Toulouse et il dira aux Toulousains: je sais que vous avez de l'espagnol dans le ventre. Je sais que vous avez de l'espagnol dans le ventre, ça signifie bien ce que ça veut dire. En quelque sorte, je sais que vous êtes en face de moi, mais que quelque part, vous cherchez à me trahir. Et devant le Parlement de Paris, il viendra, il leur reprochera leur luxe et leur manteau d'hermine, et exprès, volontairement, parce qu'il a le sens de la publicité avant la lettre, il viendra avec, finalement, un costume usagé, presque troué, pour leur montrer que le roi sait, en quelque sorte, vivre modestement face à eux. Donc, véritablement, une position politique, et je vais en terminer là, qui fait que la première moitié du XVIIe siècle, c'est une première moitié en quelque sorte d'installation de ce qu'on pourrait appeler l'absolutisme, même si à l'heure actuelle, avec raison, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord avec l'expression absolutisme. Mais en tout cas, d'un renforcement du pouvoir royal qui va en quelque sorte donner moins de latitude au Parlement, qui va leur créer, je dirais, des obligations, et qui explique à bien des égards la fronde. Et vous devez savoir, et c'est par là que je vais m'en arrêter, que finalement, les deux grandes régions frondeuses, frondeuses jusqu'au bout, ont été mues par le Marlement, mues par la noblesse, à la fois Paris et Bordeaux. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire que la grande âge d'or du Parlement, sur le plan de son rôle politique, va pratiquement cessé, mais donner de grands moments par rapport, je dirais, à la vie des parlementaires, au rôle intellectuel, lorsque les rois de France, sagement, précautionneusement, vont envoyer les commissaires qui vont devenir les intendants, et cette large dépossession, on la retrouve tout au long du XVIIIe siècle. Voilà.
Merci, merci beaucoup. Oui. Voilà, nous avons bien avancé, nous sommes arrivés à la fronde. Alors, celle qui aurait pu en parler très bien, c'est Caroline Lemao, mais elle ne peut pas être parmi nous. Il faut quand même dire que la fronde, ça a été le grand moment de la vie du Parlement, non pas de sa puissance, mais peut-être de la fin de sa puissance, mais en tout cas de l'exacerbation de son pouvoir, de ses hésitations, de ses reniements, tant d'abord au temps de la fronde parlementaire que ensuite lorsque le mouvement est devenu ce que l'on appelle l'Ormée et où le Parlement a été finalement opposé au peuple qui a eu provisoirement le dernier mot puisque on a expulsé par fournée entière, les parlementaires qui se sont retrouvés à la fin, 7 personnes pour une rentrée qui a eu lieu à Agen, avec le nouveau premier président nommé par le roi, qui était Arnaud de Pontac, et qui a fait un discours sur la nécessité d'être fidèle au roi. Ceci étant, l'ère des remontrances était terminée, et c'était un parlement mis au pas, qui va donc entamer le milieu du XVIIe siècle. On est au cœur de l'histoire, là. Et cette partie de l'histoire du Parlement, sur laquelle on est obligé, évidemment, de faire du style télégraphique, faute de pouvoir aborder cela en détail, mais c'est dans le livre, c'est M. Mathieu Cervanton, de l'Université de Bordeaux 3, qui va nous en parler brièvement. Alors, il a fait, lui, une étude sur le barreau. Il ne sait pas... Non, si, dans le livre, c'est plutôt quand même le barreau. Ah non, c'est M. Levers, je me trompe, oui. Alors. Oui, 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 alors vous, c'est, oui, plus, c'est général. Mais il y a les avocats aussi.
Je vais en parler.
Oui.
Oui. Bon, alors, tout d'abord, pour commencer, je voulais souligner que, personnellement, j'espérais voir les 600 ans du Parlement de Bordeaux.
Ah oui, vous avez des chances. Et nous aussi, hein, nous aussi.
Et je vous le souhaite à tous. Alors, mes travaux portent essentiellement sur le Parlement de Bordeaux durant la première moitié en fait du XVIIe siècle, donc avant la Fronde, et sur des comparaisons. J'essaye de porter un regard comparatif sur le Parlement de Bordeaux, mais aussi sur les parlements de Toulouse et d'Aix-en-Provence. Et je peux témoigner ici que effectivement, le Parlement de Bordeaux est l'un des rares Parlement être encore travaillé énormément, tant l'historiographie aixoise, encore vous avez quelques travaux qui ont été novateurs dans les années 70, mais le Parlement de Toulouse est complètement laissé en friche à l'heure actuelle.
Il ne faut pas dire ça, monsieur Gazzaniga.
Mais il ne faut pas dire ça, ni aux Toulousains, ni aux Provençaux. Si mes travaux portent essentiellement sur cette période du premier XVIIe siècle, c'est vraiment, je porte, disons que je suis le bout d'une lignée d'universitaires bordelais qui ont, au fur et à mesure, remonté le temps, en fait, en commençant par le XVIIIe siècle. Alors, on l'a rappelé avec les travaux de William Doyle et du professeur Michel Figeac. On est encore remonté un petit peu le temps avec les travaux, encore une fois novateurs, de Caroline Lemao, cette fois sur le Parlement de Bordeaux durant le règne de Louis XIV. Et pour, de mon côté, arriver finalement à ce règne peu connu qui intéresse peut-être beaucoup moins, et pourtant, le règne de Louis XIII. Louis XIII, Richelieu, et l'époque de ce qu'on appelle la construction de l'absolutisme, on l'a dit, hein, qui est un terme qui est extrêmement débattu parmi les historiens. Et donc tout ce XVIIe siècle, on peut le dire, je pense, il a vraiment le siècle des tensions entre le Parlement de Bordeaux et l'autorité royale, et entre le Parlement de Bordeaux et les habitants, les bourgeois de la ville de Bordeaux. Une tension, on peut prendre trois dates, il me semble, qui sont essentielles pour comprendre en fait l'évolution de l'attitude politique du Parlement de Bordeaux. 1635, vous avez une émeute qui dégénère à Bordeaux, l'hôtel de ville est pris pour une histoire d'impôt portant sur le vin, et les parlementaires sont menacés, en particulier le premier président Antoine d'Aguesseau. Le mot circule comme quoi on voudrait s'en prendre à lui. Il est obligé de se cacher dans le château du Ha. Quelques jours plus tard, circule une liste de 400 noms parmi les plus grandes familles bordelaises qui seraient menacées. Alors on dirait les égorger durant la nuit. Donc vraiment une période de tension entre le Parlement et ses propres administrés, si on peut dire. 1648, 1653, aussi une période difficile, hein, la Fronde, une période de tension à la fois avec la bourgeoisie bordelaise, à partir de 1651, fin 51, 52, avec le phénomène de l'Ormée, le mouvement de l'Ormée, et de tension, bien entendu, avec l'autorité royale. Et qu'est-ce que c'est l'autorité royale, en fait, à cette époque-là? C'est pas tant le roi, mais c'est essentiellement le gouverneur de la province, le duc d'Épernon, Bernard Nogaret de la Valette, donc qui assiège Bordeaux et qui va tenter même de sortir de force les magistrats bordelais durant l'été 1649. 1675, là on rentre dans un règne d'un roi qui est tout sauf humble, et 1675, là c'est le Parlement de Bordeaux qui subit, un peu comme en 1635, une émeute.
Papier timbré.
Oui, portant sur le papier timbré, hein, ce ne sont pas les Bretons hein, qui ont inventé ce type d'émeute. Donc en 1675, et les parlementaires payent non pas leur participation à l'émeute, mais ils payent finalement de ne pas avoir réussi à rétablir l'ordre. Ce qui est quand même assez différent en disant voilà, ce ne sont pas les moteurs de la sédition. D'ailleurs, même en 1635, les parlementaires, je vous l'ai dit, sont plus menacés que menaçants pour l'autorité du roi. Donc, dans ce cadre large du XVIIe siècle, donc à la fois de tension avec l'autorité royale et de tension avec la bonne bourgeoisie bordelaise, j'ai essayé, dans le cadre de l'ouvrage qu'on vous présente ici, de revenir en fait sur un tout petit événement qui me semblait finalement assez intéressant à étudier si on souhaite faire ce qu'un historien, finalement, qui est peut-être malheureusement peu lu à Bordeaux, Francis Loirette, parlait d'histoire au microscope. Et il partait donc de cette idée qu'il fallait étudier vraiment les faits jusqu'au moindre détail pour essayer de comprendre peut-être des choses plus larges sur le fonctionnement d'une société, là, dans le cadre des parlementaires, du fonctionnement de l'État. Et quel est l'incident qui m'a dit, bon tiens, il y a peut-être quelque chose à travailler? C'est en 1636, donc une année après les émeutes bordelaises de 1635, de l'été 1635, vous avez un honorable conseiller du Parlement de Bordeaux, Jean de Briey, qui, revenant du palais dans son carrosse, on l'imagine dans son carrosse, et son carrosse est arrêté par trois hommes vêtus d'une livrée qui s'avéra être celle du duc d'Épernon. Ces trois hommes, donc en fait des soldats du duc d'Épernon, des membres de sa compagnie, plongent leurs épées dans le flanc des chevaux du conseiller Jean de Briey. Les chevaux s'emballent, bien entendu, hein, et vont mourir quelques mètres plus loin, en fait, place Saint-Projet. Et le parlementaire est obligé de partir la robe entre les mains et de se cacher dans la maison d'un boucher. Et donc, je me suis intéressé en fait à ces événements-ci, non pas pour l'anecdote, mais davantage pour essayer de voir ce que révélait en fait cet événement. Quelques conclusions assez rapidement révèlent tout à fait la violence politique des mœurs de l'époque. Et voilà, quand même un conseiller, un des plus hauts magistrats de la province, qui était attaqué en pleine rue par un autre représentant du roi, en tout cas par ses hommes. Hein, il l'avoue en plus dans ses mémoires, enfin dans les mémoires qui ont été écrits après sa mort, où ils avouent comment ils ont décidé. Au départ, quelqu'un lui avait proposé de s'en défaire d'un coup de poignard, mais sans que ça ne se sache. Mais finalement, le duc d'Épernon, hein, qui aime faire dans le spectacle, décide plutôt ce guet-apens. Donc, la violence des mœurs politiques. Seconde chose, la faiblesse en fait du soutien de l'autorité royale vis-à-vis de ses propres magistrats. Parce qu'on se rend compte que très rapidement, les autorités, hein, en l'occurrence le chancelier Pierre Séguier, décident en fait, de couvrir complètement le duc d'Épernon en retirant en fait, l'affaire aux magistrats bordelais pour les donner à une autre cour de justice qui dépend en fait, davantage du duc d'Épernon. En fait, il s'agit de couvrir et d'étouffer l'affaire. Donc la faiblesse aussi du soutien de l'autorité royale à ses magistrats. Troisième point, j'ai essayé de voir un petit peu qui étaient ces magistrats et comment est-ce qu'ils réagissaient à ce type d'événement. Et je me suis rendu compte, en fait, quand on regardait, c'est les magistrats qui semblent le plus virulents en 1636 durant cette affaire, qui sont en fait les magistrats de la Chambre des enquêtes, c'est-à-dire les plus jeunes, sont les magistrats qu'on va retrouver en 1648-1649, au déclenchement de la Fronde, et qui sont là aux affaires, parce que ce sont les magistrats qui ont pris un petit peu de bouteille et qui sont à la Grand Chambre. Et donc, ça explique bien des choses, parce qu'en 1649, qui est-ce qu'ils affrontent? C'est le fils, en fait, Bernard de Nogaret de la Valette, c'est le fils de l'ancien duc d'Épernon. Et donc, ils savent très bien une chose, que la violence est un moyen qui peut être utilisé contre eux, que l'autorité royale est très très loin de Bordeaux au XVIIe siècle et qu'il faut mieux s'organiser entre eux pour se défendre. Voilà, je vous remercie.
Merci. Bravo. Merci. Voilà.